tout le monde. C'est une chose merveilleuse de voyager, d'être en vacances. Et là où nous nous trouvons en vacances, de pouvoir aller dans une ville, dans un village, de trouver une église, des chrétiens locaux rassemblés dans le nom de Christ, qui ont la même Bible que nous, qui ont la même foi que nous, peut-être un accent différent, mais c'est une joie de pouvoir être avec eux. J'espère que c'était votre expérience pendant vos vacances, c'était notre expérience la semaine passée. On est content aussi d'être de retour parmi vous, parmi nous. Et je vais ouvrir la Bible avec vous, mais d'abord j'aimerais prier, si vous le permettez. J'aimerais prier pour nous. Dans le calme et le silence de notre cœur, Seigneur, nous voulons te prier, t'inviter à nous parler. Merci pour ta parole vivante. Merci pour le privilège que ça représente d'entendre ta parole qui s'adresse à nous aujourd'hui. Si nous n'avions expérimenté ça qu'une seule fois, ce serait un souvenir que nous chéririons jusqu'à la fin de nos jours. Mais nous avons entendu ta parole semaine après semaine, jour après jour. Merci. Et je te prie que tu nous gardes dans la concentration par rapport à cette parole pour nous, vraiment nous pencher dessus, regarder profondément ce que tu as à nous dire et être réceptif parce que tu veux encore nous transformer ce matin. Tu ne veux pas que nous restions les mêmes, mais que nous puissions être davantage le reflet de ta personne, ta bonté, ta souveraineté, ta gloire nous parle aujourd'hui. Et nous voulons, Seigneur, être humbles devant toi, prêts à apprendre, prêts à changer, prêts à nous repentir. Alors, s'il te plaît, travaille en nous, travaille en moi, travaille en chacun de nous. Amen. Paris, le début des années 1990, à Paris, une femme, Marie-Laure, qui est sénégalaise d'origine, vit là dans la capitale française. Et elle a un statut social assez élevé, c'est une histoire vraie. Statut social assez élevé parce qu'elle obtient une place importante à l'UNESCO, le Comité culturel des Nations Unies. Elle vit là à Paris et elle a une grande collection d'œuvres artistiques qui sont sa collection personnelle, c'est des objets de valeur. Et elle est aussi proche du Premier ministre français de l'époque. Quelle vie! De quoi être fière! Elle pouvait être fière d'être arrivée à une position importante. Son savoir culturel, qui est voulu par les autres, la richesse de ses objets personnels, avoir de l'influence dans la société, dans le monde. Mais grâce à des chrétiens qu'elle va rencontrer, elle va découvrir Dieu. Et en apprenant ce que Dieu veut d'elle, sa vie va être bouleversée. À un moment, tellement elle va être affectée par la parole de Dieu, elle va se débarrasser de certains objets d'art qui sont dans sa collection. Nous pensons parfois que Dieu est là seulement pour ceux qui ont raté leur vie. Et c'est vrai qu'il est là pour ceux qui ont raté leur vie. Mais il est là aussi pour ceux qui ont réussi leur vie, qui ont obtenu ce que le monde a à offrir et qui ont trouvé que c'est une coquille vide et qu'ils ont vraiment besoin d'une relation personnelle avec Dieu parce que Dieu a plus de valeur que tout ce que nous pouvons obtenir dans ce monde. Aujourd'hui, nous allons découvrir deux textes de l'Ancien Testament que j'ai étudiés et qui nous parlent. Ce sont deux textes qui se complètent, qui sont un peu parallèles et qui nous disent ce que Dieu veut de nous. Et j'ai intitulé ce message « Ce qui fait plaisir à Dieu ». Ce qui fait plaisir à Dieu. Vous êtes prêts à découvrir ça? Jérémie chapitre 9, ouvrons la Bible ensemble, allumez votre Bible si c'est sur votre smartphone, mais ne soyez pas dérangés par les notifications, essayez de mettre ça en mode ne pas perturber, ne pas déranger. Et en Jérémie chapitre 9, en fait juste pour un peu poser le décor, Jérémie c'est qui? C'est quelqu'un qui vit pendant une crise en Israël. Et Dieu envoie un homme, un jeune, qui a un message très difficile parce que personne ne va l'écouter. C'est un moment où le peuple entier s'était détourné de Dieu pendant longtemps et Jérémie doit annoncer que c'est la fin. Personne ne va l'écouter. À un moment, les gens se réunissent autour de Jérémie, ils disent « Voilà, Jérémie, dis-nous ce que le Seigneur veut pour nous et on va obéir à la parole de Dieu. » Alors il leur dit ce que Dieu leur dit et puis directement après, ils disent « Non, non, c'est pas ça et on va pas faire ça. » On va faire le contraire. À un autre moment, la parole de Jérémie, la prophétie de Jérémie qui a été écrite par son secrétaire, va être lue devant le roi. Et le roi va découper colonne après colonne et va la mettre dans le feu. La parole de Jérémie, c'était difficile de l'annoncer, mais personne ne l'a écoutée. Pourtant, elle a réécrite et elle a été préservée pour nous parce que c'est la parole de Dieu et la parole vraie. Alors Jérémie doit annoncer que la désobéissance de son peuple était allée tellement loin que maintenant c'est le moment de la ruine. Dieu va juger son peuple. Et juste pour donner un exemple, on est en Jérémie chapitre 9, juste en introduction, versets 10 à 12 nous donne un exemple du type de choses que Dieu annonce à travers Jérémie. « Je ferai de Jérusalem un tas de ruines, un repaire de chacals, et je ferai des villes de Juda un désert dépourvu de toute animation. » Qui est un homme sage qui cherche à comprendre ce qui arrive, qu'il annonce que la bouche de l'Éternel lui aura dit? Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme un désert où personne ne passe? L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi, celle que j'avais mise devant eux, parce qu'ils ne m'ont pas écouté et ne l'ont pas suivi. Mais au milieu de ce message dévastateur, où Dieu annonce le jugement, Dieu parle aussi de ce qu'il veut de la part de son peuple, et c'est sur cela que nous allons nous concentrer. Jérémie chapitre 9, verset 22 à la fin. Jérémie 9, verset 22. Voici ce que dit l'Éternel. Que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse. Que le fort ne se montre pas fier de sa force. Que le riche ne se montre pas fier de sa richesse, mais que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans ceci. Le fait d'avoir du discernement et de me connaître. En effet, c'est moi, l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. Voici que les jours viennent, dit l'Éternel, où j'interviendrai contre tous les faux circoncis, l'Égypte, Juda, Édom, les Ammonites, Moab, tous ceux qui se rasent les coins de la barbe et qui habitent dans des déserts. En effet, toutes les nations sont incirconcises et la communauté d'Israël tout entière a le cœur incirconcis. Deux choses. Vous connaissez Dieu, soyez-en fiers. Vous connaissez Dieu, soyez-en fiers. Il y a une division très simple ici. Ceux qui ne devraient pas être fiers et ceux qui devraient être fiers. Ce n'est pas que la fierté est interdite, mais c'est l'objet de la fierté qui doit être le bon. Et d'abord, il va disqualifier tous ceux qui auraient des sujets de fierté. Il va parler de la sagesse, de la force, de la richesse. Il va dire « Tu es sage, tu as un prix Nobel ». Tu es un chercheur, un auteur, une personnalité éminente de la culture ou de l'académie. Tu peux avoir tout ça et pourtant ne pas comprendre la sagesse spirituelle de Dieu. Ne fais pas le fier. Ou tu es fort, tu es à la tête d'une entreprise. Ou tu es tellement célèbre que les gens écoutent ce que tu dis sur les réseaux sociaux. Tu as une influence, quelle puissance sur les gens, n'est-ce pas? Mais ta force n'est pas un atout majeur. Ta force ne devrait pas être ton sujet de fierté. Ou tu es riche. Je pense à cet homme qui a décidé de faire une sortie en bateau, un voilier de luxe, qui valait apparemment 14 millions de livres sterling. Mais sa fortune ne l'a pas sauvé, il a été naufragé, il a été perdu. Ce n'est pas la richesse qui sauve. Mais si tu veux être fier, sois pas fier de ta force, ou de ta sagesse, ou de ta richesse, sois fier, verset 23, d'avoir du discernement, de comprendre et de connaître Dieu, pas Dieu comme un concept nébuleux, mais spécifiquement, qui est Dieu, l'Éternel, le Seigneur, comme il s'est révélé à Israël et à nous en Jésus-Christ. Je connais Dieu. Alors on ne comprend pas tout, mais on comprend qui est Dieu. Nous comprenons que Dieu est grand et saint et digne de louange. Nous comprenons qu'il est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, trois personnes en un Dieu. Nous comprenons que Dieu est un Dieu de justice qui punit les fautes, comme nous le voyons dans ce chapitre. Et un Dieu de bonté qui pardonne la faute. On comprend cela, on entend que Jésus est le seul homme qui a été parfait, obéissant à tout point de vue, là où nous ne sommes pas, et prêt à donner sa vie pour nous donner le pardon, la vie éternelle. Mais surtout, nous comprenons que nous avons une relation avec lui. Dieu est devenu mon Père. Dieu qui est mon Créateur est devenu mon Père en devenant mon Sauveur et mon Seigneur. Nous connaissons Dieu. Alors notre vie n'est pas insensée. Nous ne vivons plus pour les plaisirs vains de nos projets personnels. Ma vie est pleine de sens parce que j'ai trouvé Dieu et je vis en lui. Alors bien sûr, il y a des souffrances, il y a des épreuves, il y a des conséquences de nos actes. Il y a des choses difficiles à vivre, mais nous avons trouvé notre raison d'être et c'est là notre vie. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à une réunion d'école. Mon école secondaire a annoncé récemment que l'année prochaine, il y aura une réunion d'école. Ceux qui étaient là, moi c'était presque il y a 30 ans, j'ai quitté l'école secondaire, l'école européenne ici à Bruxelles. Je suis en contact avec un de mes amis, camarade de classe, et je lui ai dit « Est-ce que tu comptes y aller ?» Il m'a dit « Non, je n'ai pas vraiment envie. » Je lui ai dit « Pourquoi ?» Et il m'a dit « Ouais, ça va être plein de gens qui vont être en train de se vanter. » Et je lui ai dit « Oui, il y aura peut-être deux catégories de personnes. Et il y aura ceux qui seront curieux de voir ce que les autres sont devenus, et puis il y aura ceux qui voudront se montrer et dire « Oh là, regarde ma Ferrari, regarde ma femme. » Regarde mon poste à l'Union européenne, voilà, j'ai de l'importance, etc. C'est vrai qu'il y aura des gens qui voudront faire le fier. C'est une tendance naturelle d'être fier. Mais nous poursuivons, parce que ça devient plus subtil. Non seulement Dieu dit « ne sois pas fier de cela », mais il dit « sois fier de moi, parce que moi, l'Éternel, je suis celui qui exerce la bonté, le droit et la justice ». Sur la terre. C'est étrange, n'est-ce pas? Parce qu'il ne dit pas « Je suis celui qui a la sagesse, le pouvoir et la richesse ». Ça aurait du sens qu'il dit « Ne soyez pas fiers de votre sagesse, de votre pouvoir et de votre richesse. Moi, j'ai la richesse, moi, j'ai le pouvoir ». Mais quand il se décrit lui-même ici, et bien sûr, Dieu a la sagesse et le pouvoir et la force, mais quand il se décrit lui-même, il prend d'autres caractéristiques. Il met en avant sa bonté auquel il prend plaisir. Et la bonté va être un grand thème ce matin, parce que c'est un grand thème biblique. Et je dois dire que le mot est assez faible pour traduire la grandeur du propos, bonté. Un gâteau est bon. Et Dieu, il est plus que ça. Le mot, c'est difficile à traduire, tellement c'est riche, mais il s'est traduit parfois « bienveillance ». Et là, on approche un peu plus, n'est-ce pas, du sujet. La Sommeur dit la bienveillance. La NBS dit la fidélité. Parfois, c'est traduit « l'amour de Dieu ». C'est un mot absolument vital de l'Ancien Testament qu'on peut définir comme ceci. La bienveillance de Dieu dans l'Alliance. sa bonté, dans la fidélité envers son peuple, envers les pécheurs rachetés. Quelle bonté Dieu nous a manifestée. Vous pouvez compter dessus cette bonté. Parce que Dieu est fidèle, Dieu est bon, c'est son caractère. Dieu est vraiment bon. Mais il est aussi droit, comme il le dit, et il est aussi juste. Il est droit, ça veut dire qu'il n'est pas corrompu par le favoritisme. Il n'est pas louche dans ses actions. On ne peut pas remettre en question ce que Dieu fait, il est droit. Et il est juste, il récompense le bien et il punit le mal. Et c'est pourquoi il revient sur le thème du jugement juste après. Vous savez, il est important de saisir Dieu tel qu'il est vraiment. Pas Dieu selon l'opinion populaire. Pas Dieu selon une sorte de soupe où on mettrait toutes les religions et on voit un peu ce qui ressort. Pas Dieu comme j'aimerais imaginer que Dieu soit, mais Dieu tel qu'il est vraiment. C'est lui que nous devons adorer, c'est lui que nous devons connaître, le Seigneur, le Dieu de la Bible, le Dieu vivant. Et des chants peuvent nous aider avec cela. L'idée que nous avons de Dieu est souvent façonnée par ce que nous chantons. Et si nous chantons des chants qui disent la vérité sur Dieu, eh bien ça nous élève pour louer Dieu tel qu'il est. Mais nous devons éviter bien sûr des chants qui réduisent Dieu au niveau d'un copain. On dit voilà, il est un peu comme moi et il est sympa comme moi. On a vu qu'il y a trois fausses sources de fierté. Mais il y a une quatrième fausse source de fierté qui se cache dans ces derniers versets de Jérémie 9. On va regarder ça maintenant. Dieu annonce qu'il va intervenir contre tous les circoncis, verset 24. C'est très explicite. Et si nous lisons ces phrases sans y penser, nous pensons qu'il va dire ce qu'il dit au verset 25. Toutes les nations sont incirconcises. Dieu est pour la circoncision dans l'Ancien Testament, et donc il va attaquer les autres qui ne sont pas circoncis. Les Juifs disaient « Nous sommes la circoncision ». Il y avait un mot pour les non-circoncis. Ils disaient « Voilà, les autres, ce sont les non-circoncis ». Mais regardez de plus près ces versets. Ils sont circoncis, en fait, physiquement. L'Égypte, l'Édom, les Ammonites, dans la région, ils pratiquaient la circoncision. Et donc il y a deux surprises. La première surprise, c'est que Dieu va intervenir contre des peuples où les hommes sont circoncis. Mais l'autre surprise, c'est qu'il met Juda et Israël parmi eux, ils sont dans la liste. Le problème est qu'ils sont comme des circoncis, mais, fin du verset 25, Israël tout entière a le cœur incirconcis. Et je pense que là, Dieu est en train de pointer du doigt une autre source de fierté qui est la pratique religieuse. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais se faire circoncire pour un homme, c'est un grand effort, c'est un grand signe d'obéissance. Ou faire circoncire son fils, c'est un signe d'une grande obéissance religieuse. Et donc, c'est un sujet de fierté. Mais Dieu dit... Ah oui, vous avez eu une intervention chirurgicale sur votre corps, mais vous n'avez pas eu une intervention chirurgicale au niveau de votre cœur, spirituellement parlant. Il vous manque l'œuvre de Dieu, là où ça compte le plus. Donc la quatrième source, fausse source de fierté, la pratique religieuse, et c'est ça qui est dérangeant. C'est dérangeant pour nous. Parce que nous pouvons tellement facilement prendre les autres de haut et dire « Ah ouais, les riches et les puissants, nous on n'a pas de richesse, on n'a pas de puissance, on dit, ouais, les riches et les puissants, ce sont des mauvais. Mais nous on va à l'église, nous on lit la Bible. » Et on peut avoir une fierté qui est un orgueil spirituel, parce que j'ai été baptisé, je ne suis pas comme les autres. Non. Que le croyant ne soit pas fier de sa pratique religieuse, mais qu'il soit fier de connaître Dieu, de connaître Christ. Il n'y a rien de meilleur. Et tout le reste, je peux m'en passer. Alors avec cet avertissement en tête, nous devons regarder notre deuxième texte qui complète le propos Et c'est dans le prophète Osée. Prophète Osée, je vous donne le temps de trouver parce que c'est dans les petits prophètes. Osée chapitre 6. Osée chapitre 6, c'est un prophète un peu plus long que les autres, donc vous avez des chances de le trouver. Osée chapitre 6, verset 6, juste un verset. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui parle, c'est lui qui dit cette phrase. Osée 6, verset 6. En effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes, les offrandes brûlées. Vous voyez qu'on est dans le même sujet, n'est-ce pas? Voici le tableau, ça va nous aider. Regardez le parallèle. Il parle de la connaissance de Dieu dans les deux textes. Il prend plaisir à la bonté, le même mot que chez Jérémie. Et le prendre plaisir et la bonté sont là aussi chez Osée. Et donc, deuxième partie, vous connaissez Dieu, montrez sa bonté. Montrez sa bonté. Dieu dit, je désire la bonté et non les sacrifices. Cette phrase est absolument scandaleuse. Je vous assure que dans tout l'Ancien Testament, de toutes les phrases que Dieu dit par rapport à ce qu'il veut de nous, il n'y a rien qui soit aussi choquant que cette phrase-là. Je dois dire, si ce n'était pas dans la bouche d'un prophète, si je ne savais pas que c'était dans la bouche d'un prophète, si je ne savais pas que Jésus lui-même a répété cette phrase à deux reprises, mais que j'entendais quelqu'un dire, vous savez, Dieu, il ne veut pas les sacrifices, il veut juste la bonté, je dirais, non, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas vrai. Vous voyez à quel point c'est choquant? Dieu ne désire pas les sacrifices? Attends un peu. Il y a tout un livre de la Bible, le Lévitique, qui décrit tous les sacrifices que Dieu veut, qui demande, voilà, il faut offrir un bouc ou un agneau, tous les détails sont là. La vie des Israélites était rythmée par le fait que chaque année, il y avait différents sacrifices à offrir, et pendant l'année, ils étaient en train de réfléchir, on va devoir sacrifier un de nos moutons, là, il va falloir économiser, celui-là, il va convenir, il est mâle, et c'est un agneau, il a moins d'un an, on va le sacrifier bientôt. Et ils devaient offrir des sacrifices. Tout le temps, ils devaient penser à ça. Et quoi, Dieu ne veut pas de sacrifice? Bizarre. Il dit ici, ouais, pas envie. J'ai pas envie. Le psaume 50 dit des choses semblables. Dieu dit, ouais, pas intéressé par vos sacrifices, votre petit bétail, vous pouvez le garder pour vous. Comment peut-il dire ça? Le sacrifice était quand même dans la Bible. Le sacrifice, c'était des rappels utiles pour comprendre la gravité du péché. Vous imaginez, chaque fois que tu étais en train de tuer un mouton ou un bœuf, tu étais en train de dire, ouais, mais ça devait être moi. Ça devait être moi qui meurs. Ce péché est grave. Mais le mouton ne va pas régler le problème avec Dieu. Et c'est évident quand on y pense. Rien de ce que nous pouvons faire ne peut régler le problème entre nous et Dieu. C'est normal, hein, tu as péché toute ta vie et puis tu dis, ouais, je vais tuer un mouton, c'est bon. Mais ça ne marche pas comme ça, évidemment. Donc le sacrifice que Dieu désire n'est pas quelque chose que nous pouvons offrir à Dieu, mais c'est quelque chose que lui va devoir nous donner. Parce que seulement lui a les ressources pour donner quelque chose qui est suffisamment précieux, qui a de la valeur pour réparer notre faute devant lui. C'est son Fils unique que Dieu le Père va offrir. Et lorsque Jésus meurt à la croix, ce n'est pas à nous d'accepter son sacrifice en disant « Ah ouais, moi j'accepte le sacrifice. » Mais c'est Dieu, le Père, qui accepte le sacrifice en disant « Ce sacrifice a de la valeur. Ce sacrifice vaut des millions de péchés et des millions de pécheurs parce que c'est mon Fils. » Donc, il ne désire pas les sacrifices là, des agneaux et des moutons et des boucs et des bœufs. Ils ne désirent pas les dîmes et des offrandes que nous avons à donner. Quand Jésus est dans le temple, il y a des gens qui donnent des grandes sommes. Faut pas Jésus dire, waouh, je suis épaté là, waouh, ça c'est beaucoup d'argent. Ils ne désirent pas ça. Par contre, il y a un début de phrase. Et on ne doit pas louper le début de phrase. Je désire, je prends plaisir, je désire la bonté. La bonté, la bienveillance, souvenez-vous. Il désire non seulement la voir lui-même en lui, mais il désire la voir chez nous. Il prend plaisir en sa bienveillance, bien sûr, mais il veut la voir reflétée chez toi, chez moi, dans notre vie. Et ce n'est pas pour nous acheter une place au ciel. Ce n'est pas qu'on va dire, voilà, je suis tellement bienveillant que tu dois m'accepter. Non, c'est parce que j'ai compris, j'ai reçu la grâce et la bienveillance, la fidélité de Dieu, que j'ai envie maintenant, moi aussi, de refléter cela. Et ça nous interpelle, pour que nous puissions ressembler à notre Dieu. Il veut voir de la bonté, plus qu'il ne veut voir des sacrifices. Jésus a dû répéter cette phrase choquante du prophète Osée, parce qu'à son époque, il ne l'avait pas comprise. Il y avait de la pratique. Il y avait toujours des sacrifices qui étaient offerts au temple, il y avait des offrandes, il y avait des règles pour le sabbat, il y avait des pratiquants de la circoncision. Les gens étaient vraiment sérieux par rapport à leur foi. Mais il manquait l'essentiel. C'est comme si ces gens ne connaissaient pas Dieu. Ils ne savaient pas que Dieu était bon. Ou pour le dire autrement, ils ne savaient pas à quel point Dieu est bon. Alors est-ce que c'est possible que nous ayons besoin d'entendre aussi cet appel des prophètes, l'appel du Seigneur Jésus, à montrer que nous lui appartenons parce que nous ressemblons à sa bonté? Je vais vous donner quelques scénarios. Vous allez dire si ça vous parle. Quelques exemples. Vous rencontrez un fraudeur à la STIB, par exemple. Moi, j'ai horreur de ça. Je passe barrière et puis il y a quelqu'un qui passe derrière moi. J'ai horreur de ça. Intérieurement, je suis révolté chaque fois que ça m'arrive. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai payé moi mon billet et lui, il n'a pas payé. J'ai beaucoup de réactions. J'ai rarement eu la réaction « Oh, j'aimerais bien que ce fraudeur devienne chrétien. » Par contre, Jésus dit à un fraudeur, et à un grand fraudeur, il dit « Toi, suis-moi. » Deuxième scénario. Vous faites un dîner. Et voilà, c'est un dîner chez vous. Vous invitez votre voisin, que vous ne connaissez pas très bien. Venez dîner chez nous. Il dit « Ah, d'accord, merci beaucoup. » Et puis il dit « Est-ce que mon mari peut venir avec moi ?»« Ah, Par contre, on a dit de Jésus, il accueille des pécheurs et il mange avec eux. » Alors vous pouvez penser, mais peut-être exemple à Paul, c'est rien à voir là, c'est pas pareil. Mais c'est dans un tel contexte, de repas avec des fraudeurs et des pécheurs que Jésus a rappelé, entouré de personnes avec une moralité douteuse, Jésus a dit « Allez apprendre ce que ça signifie, je désire la bonté et pas les sacrifices. » Troisième scénario, tu as un collègue et lui, il enchaîne les conquêtes amoureuses. Ou peut-être c'est une femme, hein, une collègue, et c'est un amant différent chaque saison. C'est comme un feuilleton romantique. Ouh là là, pas vraiment envie d'être en conversation avec elle, avec toutes ces histoires. Pourtant, c'est avec des gens comme elle que Jésus va aller au puits et demander de prendre un verre. C'est des personnes comme elle qu'on va trouver au pied de Jésus, subitement en larmes, en train de déverser son parfum sur ses pieds. Jésus est vraiment bon envers des personnes vraiment pas bonnes. Alors, tout cela, ce n'est pas pour minimiser le péché. Jésus ne minimise pas le péché, il ne dit pas « ouais, il n'y a pas de souci, hein, pas de problème avec le péché ». Il n'y a pas de compromis avec le péché chez Jésus. Bien sûr, le jugement est vrai et ceux qui sont en train de se révolter contre Dieu et qui continuent sont sur le chemin qui mène à la perdition, comme nous l'étions avant que la grâce de Dieu nous a atteints. D'accord ? Il n'y a pas de compromis avec le péché. Mais nous serons vraiment des enfants de notre Père céleste quand nous n'aurons pas honte de Jésus et que nous aurons la même attitude que lui envers les personnes qui ne le méritent pas. Nous qui nous appuyons sur son sacrifice suprême, nous montrons aussi sa bonté incomparable. Ça, c'est notre appel. Et c'est ça qui fait vraiment plaisir à Dieu. Prions. Seigneur, notre Dieu, nous sommes gênés. Je parle pour moi, mais peut-être pour d'autres aussi. Voir à quel point nous sommes différents de Jésus. Nous sommes des disciples de Christ, mais nous ne sommes pas encore beaucoup comme Christ. Alors enseigne-nous, apprends-nous ce que ça veut dire, ta bonté, la bonté que nous avons reçue, la bonté par laquelle nous sommes sauvés, que nous puissions être caractérisés par cette bienveillance envers tous les hommes, envers tous ceux qui nous entourent. Et nous te prions, Seigneur, qu'à travers nous, les gens peuvent dire, tiens, c'est différent. Il y a quelque chose de divin là, il y a quelque chose qui se passe. Pour te voir, mais aussi, Seigneur, pour te chercher, te trouver, tant qu'ils en ont l'occasion. Amen.